écologie, éco-formation, etc., avec Eric, Odile qui vont animer. Et puis, un autre, et puis ils vont présenter un peu le cadre. Hein, c'est aussi dans, le, dans l'idée de ce conjoint Paris 8, le laboratoire Esperis et l'université coopérative de Paris. Hein. Ils ont eu des séminaires sur l'éco-formation, et qu'il n'y en a plus à Paris 8, ça, c'est logique. Et le deuxième. Maintenant, il y en a en master 2, des nouveaux, là, depuis cette année. Et la deuxième, c'est Florent Pasquier, qui va être sur la question de spiritualité, la spiritualité laïque, enfin, qui va animer la deuxième partie. Alors, je voudrais juste dire, à titre d'introduction, qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé dans les recherches-actions ce matin, c'est une recherche-action, alors, c'est la... celle qui était là ce matin, elle a dû partir pour des raisons personnelles, elle s'en excuse, c'est la recherche-action que René Barbier a fait avec les écoles Steiner, et notamment le réseau des écoles Steiner, avec, en lien d'ailleurs, je me souviens d'une rencontre qui a eu, qui était aux éditions Actes Sud, à Arles, avec l'actuel ministre de la Culture, maintenant Françoise Nyssen, qui était également militante de ces questions de pédagogie nouvelle. Et puis, juste aussi, Déborah m'a annoncé quelque chose dont je n'imaginais même pas que ce soit le cas. Alors, je lui demande de le dire parce que ça introduit ce qui se passe cet après-midi.
Bonjour, donc, je m'appelle Déborah, je travaille sur l'enfant, l'enfant auteur. J'ai une démarche d'ethnographie de l'enfance. Et quand Jean-Louis, j'étais pas là ce matin, donc Jean-Louis m'a fait le résumé de vos débats. Et c'est juste quand il m'a dit qu'il trouvait étonnant, enfin étonnant, je sais pas ces mots, c'est-à-dire ce chemin emprunté de l'analyse institutionnelle à la spiritualité par René Barbier. En fait, pour moi, ça a fait écho à l'histoire de l'éducation nouvelle et de la Ligue de l'éducation nouvelle, où était très présente cette dimension spiritualiste, et notamment effectivement ce, alors je ne sais pas si c'est un conflit finalement entre une pédagogie traînée qui serait plus de l'ordre d'une revendication sociale, d'une marxiste, et une dimension spiritualiste avec Maria Montessori, quelque part, était plus dans cette ligne, ou un autre pédagogue allemand, etc. Donc, enfin, et même chez Freinet, on retrouve finalement, alors qu'on a voulu cataloguer plus matérialiste, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup cette dimension spirituelle finalement de l'éducation, c'est-à-dire ce lien entre avec la nature et avec une vision holistique de l'être humain, toujours en lien, enfin, c'est toujours en lien avec la nature. On retrouve aussi chez Freinet, alors qu'au départ on aurait pu croire qu'il était davantage matérialiste. Enfin, voilà, c'était notre échange, je ne sais pas si... Je pense que
ça fait une introduction par rapport à cet après-midi. Moi, j'avoue que ce que dit Déborah, je l'ignorais. Je trouve que c'est intéressant. Et il y a eu un livre, parce qu'on citait les ouvrages de René Barbier, il y a eu un livre sur une recherche-action avec le réseau Steiner. Alors, vous allez sur le réseau Steiner, qui justement est souvent accusé d'être comme une secte spiritualiste, etc. Donc, c'est intéressant d'aller voir... cet ouvrage, vous voyez, qui résume, alors j'ai plus le titre, hein, mais c'est Art et spiritualité, qui résume cette recherche-action avec les réseaux Steiner. Bien, tout ça, c'était pour introduire, pour mettre en bouche, en apéritif, ce qui est cet après-midi sur écologie et éco-formation, hein, parce qu'on voit que ces questions-là, elles datent pas uniquement ça vient pas sortir comme ça, quoi. Hein. Voilà, vous avez la parole. Alors présentez-vous aussi en même temps, hein, sauf ceux qui sont déjà présentés.
Alors celui qui a fait des clins d'œil, tu t'appelles comment?
Ah, moi c'est Nicolas Passeur, de l'Université Copal de Paris. Et on voit souvent Véronique, vous voyez beaucoup Véronique
à l'UCP
justement, au séminaire plutôt sur les formations.
Ouais,
donc c'est vraiment mon avis.
Donc je crois qu'il y a eu une discussion sur le mot éco-formation. Il y a écologie et il y a aussi économie. Donc l'écologie va vers tout ce qui est nature. Et on peut revenir, je crois que c'est la façon de revenir à Gaston Pinault, qui pensait que la formation, ce n'était pas seulement la formation avec les professeurs, mais aussi la profession avec l'environnement humain et la formation par l'environnement naturel ou les choses quand on est dans un monde artefact. Et voilà. Alors, le côté économique, je pense qu'on peut retrouver d'autres choses, c'est le côté habitat. On habite un lieu. Et comment on l'habite, quels sont les liens qu'on a avec le lieu. Éco-formation, je pense que c'est tout ça. Mais en tout cas, on sort d'une école traditionnelle, puisque nos écoles, elles sont très loin de l'environnement en France. Alors après, il y a peut-être, ce serait intéressant de voir si dans d'autres pays, il y a plus d'ouverture à ce niveau-là. Ça, c'est un thème qui peut m'intéresser. Voilà pour l'éco-formation. La formation par l'environnement, quel qu'il soit, donc en partie naturel et en partie artificiel.
Bah, j'en ai. À l'origine, il y a Bachelard aussi. J'ai envie de reprendre la définition de Gaston Pinault. Facile. C'est la formation à, par et pour l'environnement. Alors, la formation à l'environnement, on retrouve ça dans l'éducation relative à l'environnement. La formation pour, c'est le côté politique, un peu, et Sarah de Barbier était assez dans cette voie-là. Et puis, l'originalité de l'éco-formation, c'est la formation par l'environnement, par les éléments. Et on a travaillé ça au sein du groupe de recherche sur l'éco-formation, le GREF, pendant plusieurs années, et dont on se retrouvait soit ici avec René et Gaston Pinault, qui étaient les deux GREF.
René Barbier, avec Gaston Pinault, ont fondé le groupe de recherche sur l'éco-formation en 1992. Il y avait des réunions de travail régulières, j'ai des vagues souvenirs de ces réunions. Vous apporte quoi. Et à travers ce groupe de recherche, il y a eu la production de 4 ouvrages sur chacun des éléments qui avaient été travaillés par Gaston Bachelard. Donc, le premier livre auquel René n'a pas participé, excusez-moi, c'était sur l'air. Ça s'appelait De l'air. C'est là où on a l'approche expérientielle, existentielle, qui est déjà présente dans cet ouvrage-là, puisque ça part du premier souffle, le dernier souffle de la vie. Le deuxième livre, c'était sur l'eau, les eaux éco-formatrices, auquel là René a participé. Ensuite, il y a eu un troisième livre qui s'appelait Habiter la Terre, où René a également participé. Et le dernier, c'était sur le feu vécu, qui reprend un titre provisoire d'un des livres de Bachelard sur le feu, qui aurait dû s'appeler initialement Le Feu. Donc ça faisait une boucle pour Gaston Pinault et pour René Barbier par rapport aux éléments qui qu'ils avaient travaillé en regard du travail préalable qui avait été fait par Bachelard. Et René n'a pas participé directement au dernier livre. Donc ça, c'est un des apports de René dans l'univers des sciences de l'éducation sur cette approche très originale qu'est l'éco-formation.
Ah oui, je vais dire que dans ce groupe, donc il y avait des universitaires, mais pas seulement, il y avait aussi des praticiens, et il était international. Il y avait des gens du Québec, et puis d'Amérique du Sud,
du Brésil,
surtout le Brésil. Même si c'était souvent par correspondance, enfin, en tout cas, ça fonctionnait assez large, et puis pas que universitaire. Je voulais lire pour voir un peu. Il y a eu un résumé dans ce livre-là, Habiter la Terre, par rapport à René. Donc on avait fait un résumé pour l'article de René, donc s'appelait Krishnamurti ou l'homme de l'arbre. Et le thème exploré, le type de relation, c'est la nature contemplée, le sens de l'attention à la nature. Et plus généralement au monde, la rencontre sensible et consciente de la nature, le sentiment de communion dans une relation directe, sans image, sans discours, sans rationalisation. Ça rejoint ce dont on parlait ce matin. Écouter, voir dans la présence. Et puis la posture méthodologique et épistémologique, c'était étude d'un philosophe de l'éducation, sage d'origine indienne. Donc Krishnamurti, dont on a évoqué déjà ce matin, approche de la nature comme voie d'une spiritualité laïque. Et la pédagogie, c'est pédagogie du désapprendre, du lâcher prise dans le silence intérieur et dans la solitude. Est-ce que ce sur quoi on insistait dans le bref, c'était aussi la relation directe avec la nature et comment elle nous forme, comment on est formé l'endroit où on habite, où on est né, le pays, la géographie, l'hôpital, où on travaille, où on se déplace, on est formé par là. Alors c'est un petit peu, après c'est compliqué à dire comment le processus de formation se fait, et puis aussi chacun devrait explorer comment il s'est formé, à quoi il a été formé, est-ce qu'il revient de son enfance aussi.
René travaillait surtout sur la dimension. Il était souvent à la croisée de la science, du discours scientifique, et de la poésie et de la sagesse. Et j'ai écrit un petit texte là. Qui sera sur le site de l'UCP bientôt. Et en relisant ses écrits, je me suis rendu compte que petit à petit, il mélangeait les deux formes d'écriture. Au démarrage, il y avait vraiment assez séparé le côté poétique et le côté scientifique. Et si vous voulez avoir un aperçu des écrits scientifiques, d'une vision scientifique des problèmes d'environnement par René, c'est dans la revue Éducation Permanente numéro 148. Il a tout un passage où il fait l'état de la nature en Chine. Et là, on sent vraiment qu'il maîtrise ce discours scientifique. Et par ailleurs, il écrivait aussi, il faisait référence à des poètes, et lui-même écrivait de la poésie, par rapport à cette dimension-là de la nature. C'était très séparé. Et au fil des années, plus ça allait, plus il faisait des phrases où les deux s'articulaient ensemble. Dans le livre sur les eaux éco-formatrices, il y a quelques passages comme ça qui sont intéressants. Quand il parle de l'eau qui est incolore, elle permet de voir l'arc-en-ciel. Donc il mélangeait ces deux types d'images de plus en plus. Donc ça aussi, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est un apport qu'il a eu en sciences de l'éducation d'arriver à ce mélange dans l'écriture des deux fonctions.
On peut dire aussi par rapport au greffe, donc on était inspiré principalement donc, par Gaston Bachelard, effectivement, et puis beaucoup Edgar Morin, d'autres bien sûr, mais je crois que c'est les deux principaux vraiment, qui nous ont inspirés.
Edgar Morin, il a repris parce que lui, il appelait la rationalité complexe et contextuelle. Alors, le mec a lucié cette approche qu'il cherche à mettre en œuvre avec ces termes-là. Et en prise avec le monde naturel. Donc il n'y avait pas de. Enfin, en tout cas, quand il écrivait pour le greffe, il y avait la nature était omniprésente dans tous les passages, ce qui va de soi. Après, je ne connais pas suffisamment tous les écrits de René pour savoir si c'était présent. Mais implicitement, ça l'était, puisqu'il part de l'abîme sans fond du chaos de Castoriadis, où là, on a une vision vertigineuse qui, pour moi, ouvre non pas au monde, mais carrément au cosmos. Alors, pour l'anecdote que j'ai déjà évoquée, c'est la raison pour laquelle je fuyais les cours de René à l'université, parce que je savais que j'allais partir, mais je ne savais pas si j'allais revenir. Et l'important, c'est aussi de revenir. Donc, d'être embarqué comme ça, quand il a associé ses idées, surtout oralement, quoi, dans ses cours, c'était impressionnant. Moi, j'étais impressionné par sa maîtrise, son audace aussi, d'oser parler comme ça. On ne sait rien, on est ignorant, il y a du vide, il y a du chaos. Et quand même, être dans une université où on est censé mettre un peu d'ordre dans tout ça, il y avait un petit écart. Un hiatus, je crois, on dit, non ? Voilà. Donc c'était à la fois séduisant et en même temps, moi au démarrage, j'avais des craintes à ne pas revenir dans une réalité avec une autre rationalité pour vivre au quotidien.
Par contre, moi je l'ai plus vu donc, dans le greffe, et le greffe c'était un peu l'inverse, c'était thérapeute, si je peux dire. C'est-à-dire on se rapprochait au contraire, beaucoup du concret, dans l'air de la terre, de la terre sous tous ses sens. Hein. Et en partant justement du réel, moi je trouvais au contraire, de toi, l'impression que j'ai eue, c'était peut-être une autre période aussi, que justement on était dans le concret, dans le vrai et pas dans les vibrations, même si évidemment c'est des bouquins qui sont très théoriques aussi, hein. Mais
on n'est pas d'accord, on est en train de débrouiller, on n'est pas d'accord.
Il y avait peut-être pas la théorie.
Dans les eaux éco-formatrices, il a fait. Tu as fait un geste, c'est pour parler ou c'était un geste
Je m'appelle Anastasia Chandigena. Je suis doctorante de deuxième année ici en sciences de l'éducation. Et je travaille aussi sur l'éco-formation. C'est le sujet de ma thèse. Mais plus précisément, plus concrètement, à travers le dispositif de balades sonores. En fait, je travaille sur la nature, avec le lien, avec le son. Et moi, je voudrais bien ajouter, comme je suis d'origine russe, parce qu'il y a aussi un autre écrivain scientifique qui travaille avec la question de l'écoformation, c'est Vernadsky. Et lui, il fait le lien entre écoformation, écologie et la noosphère, c'est la sphère de conscience, la sphère de, d'information. Donc ce lien vivant. Et retravaille elle travaille sur cette notion-là, noosphère. Et moi, dans mon travail aussi, j'essaie de trouver le lien entre notre conscience. Comment réfléchir, et tout ce qui se passe autour de nous à travers le son. C'est un peu vague, mais en fait, c'est le dispositif très concret qu'on fait. C'est on travaille avec des enfants, on fait les sorties à l'extérieur, et après, on retravaille, on enregistre. Les sons des endroits différents, c'est pas que les endroits naturels, mais aussi les endroits urbains. Et après, on retravaille ça en discutant, bien sûr, mais aussi en créant notre espace sonore. Et chaque enfant crée son espace sonore à travers le paysage enregistré. Et ça, ça donne aussi le terrain très intéressant à observer, à explorer et analyser. Voilà, j'ai juste voulu ajouter aussi, mais la première chose que je voulais ajouter, c'est que Vernadsky, c'est de partie russe, parce que comme je suis russe, je voudrais bien partager ce qu'on fait de notre part. elle a aussi beaucoup travaillé sur l'éco-formation, et je pense Eric et Odile sont bien sûr au courant de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire.
Pas d'accord avec toi, c'était pas que théorie, que des idées, on n'était pas que dans le monde des idées, on était vraiment, il y a entre... Moi je trouve que c'était jamais que théorique, voilà.
Mais par exemple, ce qu'on fait, c'est pas du tout la théorie, c'est au contraire, c'est la pratique. Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est, je pense, c'est de trouver le moyen de pratiquer cette formation, parce que tout le monde parle d'éco-formation, mais comment on pourrait intégrer dans l'éducation classique? Personne ne sait. Bien sûr, on va faire parfois des expériences, des sorties, etc. Mais comme on a déjà dit, l'éco-formation, c'est des liens entre nous et l'environnement. Et de trouver ce lien, on n'a pas encore trouvé le moyen de le trouver et de le travailler, ce lien. Pardon, je m'exprime pas très...
Pour aller dans le sens, par rapport à l'éco-formation, c'est comme un puzzle, on a des petits morceaux qui ont été travaillés, mais ce qu'il est difficile de se rendre compte, c'est par exemple, là, on est dans une salle avec le bruit derrière, un champ visuel, une ambiance sonore, tous nos sens sont mobilisés d'une certaine manière, et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est comment ça influe sur ce qu'on est en train de vivre et de penser, la manière dont on a de penser. Et c'est ça qui est pas entièrement mis à jour par le biais de l'éco-formation. C'est comme un projet de recherche qui s'annonce et qui prend du temps à être travaillé, à être construit.
Et si dans la pratique, il y a les livres de Dominique Cottereau qui a fait des classes de mère et qui a écrit beaucoup dessus, et ça c'est du concret, hein. Voilà. Et puis sinon, la pédagogie quand même sous-tendue, c'est les origines, c'est Montessori, le Freinet, d'autres, tout ça, hein. Ça repose là-dessus, bien sûr.
Merci beaucoup.
Mais évidemment, on est peut-être, parce que ça flotte un peu actuellement, un petit groupe, et ça ressemble bien à René Barbier d'être aussi un novateur dans ce type de réflexion, qui a eu du mal à entrer à l'université. C'était un peu en France à Tours et puis ici, mais et qui a plus d'écho au Brésil, par exemple. Et pas mal de recherches. Et c'est très difficile, hein. Il y a eu des cours ici d'éco-formation qui ont été supprimés parce que, par manque de crédit, bon, c'est le premier truc qu'on supprime, c'est vraiment l'époque où il faut supprimer ça. Quoi.
Merci.
Je m'appelle Andrea Quintana. Concernant l'éco-formation et la pratique, la théorie, en Colombie, à l'université de Antioquia, en Medellín, il y a une licence qui s'existe à peu près, ça fait 8 ans, qui s'appelle la licence de la pédagogie de la mère terre, dans laquelle c'est proposé beaucoup plus aux indigènes qui habitent dehors de la capitale. Et donc, ils viennent à l'université une fois par mois, et là, ils étudient, ils font tout un programme théorique concernant la relation entre le cœur à eux et la terre comme telle. Ensuite,
ils vont continuer ces études, mais la pratique, ça sera dehors, c'est-à-dire chez eux, où habitent tous les groupes ethniques. Donc là-bas, ils vont et ils étudient, ils pratiquent, et là, ils continuent en étudiant pour dire comment ça se passe. Un rapport, par exemple, il y a une partie du programme où ils font l'association de ventre, le ventre de la mer et le ventre de la terre. Donc ils font une liaison entre le cordon ombilical de l'un et l'autre. Dans le moment qu'on apprend à sentir, à respirer, à voir la vie et à respecter la nature, et maintenant ça se commence à ouvrir les personnes civilisées de la capitale qui commencent à s'inscrire à ces sortes de programmes parce qu'au début c'était pas accepté, ils sont luttés beaucoup, ils ont pris une dizaine d'ans pour faire valoir ces sortes de licences, et maintenant ça reprend force. C'est aussi construit et dirigé par un Indien d'origine Tulé de Colombie, et c'est un programme très très intéressant. Et donc là, on montre bien toute la manière comment c'est la pédagogie de la terre, ça vient à s'ancrer dans notre manière d'être, dans notre manière de penser et d'être là, présente. Et c'est pareil, au nord de la Colombie, il y a un autre groupe qui s'appelle, il essaye de créer une université qui s'appelle l'Université de la Sagesse.
Tu viens de là, je me présente, moi je suis CEPAD Boulanger, j'ai fait du FA l'année dernière. Et ce que tu viens de dire, ça me dit qu'il y a un lieu dans le parc de la Poudrerie entre Vaujours et Sevran, un lieu qui s'appelle le Jardin des Merveilles, des apostrophes des merveilles comme l'émerveillement, et qui est un lieu d'accueil enfants parents, qui travaille justement sur la nature. Tu parlais du ventre de la terre, par exemple, ils ont construit un gros tunnel dans la terre où nous-mêmes en tant qu'adultes on peut rentrer, un terrier. Il y a des plantes médicinales de l'époque, enfin il y a plein de plantes, donc des plantes médicinales qui permettent de refaire du lien avec le travail des sages-femmes et comment les hommes se sont petit à petit immiscés dans leur rapport au corps de la femme et en lien avec la naissance, avec les moyens contraceptifs et comment on a fait la chasse aux sorcières en stigmatisant les sages-femmes notamment et leur savoir traditionnel. Et du coup, c'est un lien qui me faisait penser avec les sonorités aussi de ce que tu disais. Dans ce lieu d'accueil enfants parents, ils invitent à chaque fois un artiste, donc des musiciens divers et variés du monde. Donc, ça fait lien aussi avec le transculturel. C'est pas pour venir se mettre en scène, mais c'est pour venir communier. Il y a plein d'objets sonores ou d'instruments de musique dans le Jardin des Merveilles que les enfants peuvent investir comme bon leur semble puisqu'ils sont à disposition. Et l'invitation qui est faite à l'artiste qui intervient ce jour-là, c'est de rentrer en communion avec éventuellement les sonorités produites par les enfants, avec les chants des oiseaux, avec les chants environnants de la nature du parc de la Poudrerie. Et je me disais que ça pourrait être intéressant qu'il y ait un travail de recherche-action peut-être plus fin en avion des doctorants à ces praticiens, parce qu'il y a un sculpteur et un paysagiste jardinier qui ont construit ce lieu-là. Il y aura peut-être des connexions à créer. Voilà, vous avez envie de partager ça me faisait écho.
En fait, aujourd'hui même, il y a un sort de. Il y a un sort, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaisse le Temazcal, c'est d'origine Quilamechua, qui est un Mexique, mais que c'est un sort de rituel qui se partage du nord de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Et donc, c'est un ventre, ça rassemble, ça symbolise un ventre. Qui s'est fait à travers des bâtons, des petits bâtons, on fait une sorte de ventre comme ça, on rentre en clin, incliné, et au milieu il met plein de pierres pour faire une sorte de sauna. Mais il appelle le ventre de la mère terre pour rentrer et se voir en soi-même. Le fait de rentrer en quatre pattes, c'est comment symboliquement, c'est naître de soi-même. Et précisément aujourd'hui, il y a un temazcal. Sur le terrain que j'ai travaillé au Palaiso. Et donc, il assiste plein de Françaises dans ses rituels. Et il apprend plein de choses. Et c'est sur ça que j'avais travaillé. Comment ils ont appris, et qu'est-ce qu'ils ont appris autour de cet environnement. Et donc, j'avais terminé ce master sur ces sortes de rituels. Mais c'est pour ça que je suis
Deux, trois images de René. Il y a René Barbier, enseignant ici, que j'ai fui. René Barbier au greffe, où on mangeait bien le midi.
Hein, oui, très bien. Et là, c'est vrai, pour dire des parenthèses, c'est René. Que ce soit ici ou à Tours, et à Tours encore mieux, on allait le midi, ça faisait partie de la rencontre, de bien boire et bien manger. C'était important.
Et l'après-midi, on a été inspirés en général. Et il y a eu René à l'UCP. Là, c'est là où vraiment je l'ai vu autrement, dans plusieurs facettes. Ce qu'on appréciait surtout, c'était sa liberté de parole, critique. Et pendant les assemblées générales, il n'hésitait pas à mettre un débat théorique sur la table, de haute volée, et même ceux qui sont soi-disant, moi, il y avait un éditeur en face de lui qui était censé bien connaître l'auteur dont il était en train de parler, et René lui faisait la leçon, quoi. Et c'était du tac au tac, et c'était des débats, il fallait prendre des notes, et c'était...
Lors du jour de la comédie, en fait, était complètement explosé assez vite. Donc on faisait un an toujours vraiment formel, parce qu'on savait très bien que René était là, qu'il serait un peu explosé, parce que justement, on y parlait avec les gens de l'édition des lecteurs, en fait, sur la page 6, et on savait qu'on avait pour un quart d'heure, une heure, des questions que nous, qu'on voulait passer très bien, parce que c'est super passionnant. En fait.
Alors pour moi, c'est un de ses apports, c'est cette transmission. J'ai écouté par rapport au DUFA, par rapport à l'enseignement ici, par rapport à l'UCP, au GREF, à tout ce qu'il a pu faire, c'était son désir de transmettre quelque chose, et en nous laissant libre de l'orientation que ça pouvait prendre. Quoi. Donc c'était... moi, c'est ce que je retiens. Nous, en vrai, j'appelle ça transmission existentielle, mais je trouve que c'est ça que je retiens de ce qui caractérise, dans ce qu'il a pu personnellement m'apporter, peut-être à d'autres aussi, à travers ses actions, ses réflexions. Et, des associations d'idées.
Ah oui, j'ai eu une association. Et non, j'ai pensé à comment il est lié aussi à la pensée d'autres, comme par exemple Rémiès, même si apparemment ils n'ont rien en commun. Mais il y a un élément de René qui est en commun avec Rémi, et c'est le journal. C'est un dispositif vraiment central dans la recherche-action, mais aussi dans la démarche existentielle. Et il a beaucoup écrit sur les journaux. Moi, j'oublie jamais vraiment que moi, j'ai appris avec lui à tenir mon journal, même par Rémi S, hein, parce que Rémi, il a beaucoup écrit vraiment sur la pratique du journal. Mais René, dans la pratique éducative, il mettait les journaux en tant que journal d'itinérance, par exemple. C'était le journal d'éducation active, par exemple. Moi, j'ai traduit en italien toute la... C'était un texte, c'était très intéressant au niveau de la philosophie et de la pratique de l'éducation, que c'est le journal d'éducation active. Journal d'éducation active, et spécialement, il y a plusieurs niveaux, il analyse plusieurs niveaux des journaux, mais c'est surtout les journaux d'itinérance. que c'est le journal qui amène à l'analyse par la recherche action, c'est le dispositif de la recherche action. Moi, je le mettais en liaison avec quelqu'un d'autre. On a fait la liaison avec Georges Lapassade, l'analyse institutionnelle, et qui il est prégné de l'analyse institutionnelle, René, même s'il ne parle pas d'analyse institutionnelle, après, il la dépasse. Et aussi l'enseignement de Rémiès sur les journaux.
Moi, savez-vous, qu'il y a une autre association, c'est Amadou Ampadema qui parle de l'école du caméléon. Aziz en parlait aussi dans ses interventions sur le DUFA. Et l'école du caméléon, dans le sens où voilà, c'est vraiment le centre de l'éco-formation, où tout est apprentissage. Et le caméléon qui va s'adapter à son environnement, effectivement, et qui va apprendre de son environnement pour pouvoir s'y adapter. Et du coup, un petit plan sympa, il y a en ce moment avec le Tarmac, un théâtre dans le 20e, il y a un portrait d'Ampadema qui est fait, où notamment cette question-là est abordée. Et c'est un projet de différents portraits qui est fait. Du coup, en lien avec le grand culturel, il y a un portrait sur Frantz Fanon aussi qui va être fait, un portrait sur Amadou Kourouma, enfin sur des auteurs de la francophonie qui, du coup, ça rentrait dans l'éco-formation, me semble-t-il, et dans la dimension interculturelle.
Je vais rebondir. Je fais les liens entre la question de l'éco-formation, au sens où on comprend qu'il y a cette interaction entre. La notion d'environnement et de nature n'existe pas, du coup, parce que sinon elle objective quelque chose qui fait partie de nous. Et donc. Je mettrais ça en lien aussi avec la notion de patient expert. Il me semble que tant qu'on attend que le savoir vienne de l'extérieur, qu'il nous soit donné, transmis, c'est pas possible que ce soit l'éco-formation ou d'autres lieux de savoir où justement René, j'étais aussi une ancienne du DUFA, nous a permis d'entrer parce qu'on a incorporé des. Enfin, les théories, elles ne sont pas dans des objets comme ça, mis à distance. Elles sont vécues, elles sont éprouvées. Je ne sais pas. Et du coup, ce que tu disais par rapport aux Indiens, je sais qu'il a participé au livre aussi sur les Kogi. Il y a cette même notion qu'on fait partie au niveau au quotidien, en fait. On fait partie d'un ensemble, il n'y a pas cette distance. Les Indiens Kogi, on voit, ils ont des sortes de rituels au quotidien. Le matin, l'homme, il tisse. En fait, ce tissu, c'est déjà la complexité. C'est cette notion, enfin, la multiréférentialité, cette notion comme ça de lien avec l'univers, et après, on s'habille avec. Et tout ça, ça veut dire, il me semble, revoir complètement tous les dispositifs et de formation et d'enseignement. Tant qu'il y aura un enseignant, et puis, c'est impossible d'être dans l'éco-formation. Tant qu'on croirait que l'enfant a besoin d'une transmission, on ne peut pas non plus être dans l'éco-formation. C'est au moment où on comprendra qu'il y a ce que Varela appelle l'inaction. On comprendra qu'on est tous créateurs et que cette création, elle dépend de notre relation avec l'environnement, qu'on pourra créer vraiment l'éco-formation. Par rapport à tous les liens qu'on a pu faire depuis ce matin.
C'était Christine.
Ex du DUFA et docteur en sciences de l'éducation. Sur la notion d'enfant maïoticien. En quoi l'enfant, qui est le comble de l'autre, quand on parlait de l'autre, qui permet, comme le dit Julien, de se connaître soi, en quoi il peut être. Il peut favoriser pour le parent des apprentissages transformateurs par le dialogue sensible.
L'éco-formation dont tu parles, elle n'est pas complètement absente. Je trouve qu'il y a des choses qui restent. À chaque fois que je vois un enfant dans la rue qui vient juste de pleuvoir, la plupart sautent à pieds joints dans la flaque d'eau. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il saute à pieds joints dans la flaque d'eau ? Presque tous. Un autre élément que je trouve important, c'est que tu mets un morceau de bois, même dans une ville, par terre, il y a un enfant qui passe, il va le prendre, il va le transformer en outil ouais. imaginaire pour lui. Et il y a des éléments qui restent, on n'est pas complètement...
Pas complètement.
Et c'est comment à partir de ça, on peut construire justement cette... Ouais. L'eau est toujours là, le feu est toujours là, la maîtrise du feu, c'est aussi des éléments importants. L'eau, elle coule, même si c'est un robinet, elle coule au quotidien. Donc, pour, ici, en France, tout ça, ça reste là.
Ça reste, mais au quotidien, on met un enfant de 3 mois dans une crèche et on lui apprend que, enfin, il y a lui et l'environnement. Et, depuis, et chaque geste, c'est vraiment au quotidien que ça se passe, à chaque instant. Avec ces répétitions de mouvements qui objectivent l'autre, ben on est coupé de plus en plus.
Excusez-moi, c'est-à-dire dans la pratique, dans un certain temps que j'ai travaillé comme animatrice, je voyais cet éloignement entre l'environnement et les sujets concrets, parce que j'ai gardé des enfants entre 5 et 6 ans, et ils sont tous ce que vous venez de dire, mais au moment qu'ils prenaient un petit bâton, ils prenaient une feuille, il sautait immédiatement, la directrice de l'école sortait et disait, écoutez, vous êtes là pour interdire ça. Pour moi, c'était comme, j'ai resté paralysée parce que je venais d'arriver de Colombie, ma vision c'est une autre, non? Mes enfants, que Manuel, j'ai 12, ils font exactement ça, et moi j'adore qu'ils le font, qu'ils aient les appuis pour qu'ils fassent ça. Mais quand j'ai vu tout ça, et dans mon journal, j'écris tous ces pensées, c'était vécu que c'était mes premières expériences que j'ai vécues ici concernant l'éducation. Et donc j'étais très triste, je suis tombée dans une sorte de tristesse, et c'est pour ça que je suis là. qu'est-ce que je peux faire quoi, comme éducatrice, non? Pas rester que dans la tristesse. Et puis maintenant j'ai 2 enfants, donc il faut réfléchir, mais aussi agir. Et c'est plutôt ça que je pense. Comment est-ce qu'on agit? Parce que je passe de réunion en réunion, et c'est exactement, je parlais avec deux copains, ça fait pas long. Mais toutes ces réunions, ça me sert à quoi? Dans ma vie, dans ces précis moments en Colombie, ils sont en train de tuer des milliards de leaders qui travaillent sur le mouvement populaire pour défendre leur environnement, un environnement qui s'est associé à leur spiritualité. Dans ces précis moments, et depuis 1974, et depuis 1990, et donc c'est là que je réfléchis, et alors.
Pourquoi parler de ces écoles qui prennent maintenant une force, au moins l'idée, école dynamique, collective, école sans programme, hein, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de programme, et que c'est l'enfant qui va petit à petit avoir des adultes, là, qui vont l'orienter quand il demande quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'écoute beaucoup ça en ce moment. Vous ne connaissez pas
l'école
démocratique en France.
Moi, je connais l'école
démocratique et dynamique.
Ça vient des États-Unis. Ça revient par cette énigme, un peu d'Alexander Mill, Samuel. C'est passé par les États-Unis, ça nous revient.
Non, c'est Sainte-Marie.
Oui, voilà, c'est passé aux États-Unis. Je sais qu'il y a plusieurs parce que.
Talent de son programme qui
travaille. Je ne sais pas, il y a des choses paraît-il qui sont très intéressantes et d'autres, je me pose la question parce que je viens comme enseignement assez, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez mieux que moi.
Ben, c'est une réponse à des besoins sociaux actuels, c'est-à-dire il y a de plus en plus de parents qui se posent des questions par rapport à l'école telle qu'elle est pratiquée, donc ça peut plus ou moins répondre, sauf que pour l'instant, ce n'est pas démocratique au sens que c'est trop cher pour beaucoup de gens, puisque en France, autant les écoles privées catholiques, elles sont aidées, autant toutes les autres écoles privées qui cherchent des alternatives, elles doivent payer très cher. Donc du coup, pour l'instant, c'est accessible qu'à des gens, soit qui font d'énormes sacrifices, soit... Voilà. Mais après, au niveau de ce que disait l'Américain et ce à quoi il se réfère, cette notion que... c'est la confiance qui est primordiale, c'est-à-dire faire confiance en fait que l'enfant, c'est un chercheur potentiel depuis qu'il est tout bébé et que son seul intérêt c'est d'entrer dans une connaissance et d'accompagner ce mouvement. Ça, c'est très intéressant ce qu'ils font par rapport à ça.
Merci.
mais enfin voilà, après c'est comment ça peut se diffuser, comment ça peut être plus démocratique sur le plan social.
Il me semble que c'est la Finlande qui vont autoriser les, enfin, enlever les programmes scolaires.
Alors, je sais parce que j'ai un fils qui travaille, qui a travaillé dans d'école comme ça. Bon, mais il est artiste, il trouve que c'est ça qu'il faut faire, c'est bien. Mais là, comment on discute aussi ? C'est professionnel de l'éducation. Alors, c'est pour lui expérimenter de l'éducation.
Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur l'éco-formation. On passe à l'autre thème de l'après-midi. Il y en a qui veulent dire des choses.
Oui. Ouais. Oui, je voudrais rajouter, voilà, mon nom c'est Béatrice, mon nom, et je suis l'éco-formation éducatrice de l'enfant de base, et par la suite je fais le DUFA. Et actuellement, je suis formatrice ou directeur pour tout ce qui est le personnel de profession petite enfance. Voilà, et c'est vrai, ce que vous dites, ça me touche énormément parce que c'est une réflexion qu'on a eue avec les formateurs, hein, puisque ce sont des adultes qui viennent au DRITA, et donc des personnes qui veulent se former pour aller sur le terrain. Être avec les jeunes enfants depuis 3 mois. Et c'est vrai que on a beaucoup réfléchi comment on peut amener la formation pour que les auxiliaires de périculture et les CAP petite enfance, ou même les assistants maternels, parce qu'actuellement on forme beaucoup d'assistants maternels, comment on peut les amener d'abord à la réflexion des prendre conscience. Le cœur de leur métier, qui est l'accompagnement de l'enfant à tout instant. Voilà. Tout en sachant qu'elles sont là, elles ne sont pas là pour faire à la place de l'enfant, mais elles sont là en accompagnement et répondre bien sûr à leurs besoins. Mais laisser une toute liberté à l'enfant de pouvoir aller vers l'espace d'expérimentation. D'accord ? Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tout dépend de l'histoire de chacun aussi. Donc, surtout dans ces métiers. Tout dépend de l'histoire de chacun. Et ça, c'est la réflexion qu'on se mène au Greta, là où je travaille. Comment on peut faire. Et donc, une des solutions qu'on a pu trouver pour avoir une approche déjà, c'est vraiment les faire sentir des choses, c'est-à-dire passer par au lieu que ce soit des cours théoriques, passer par des choses actives, par des ateliers, par des, voilà, pour qu'elles-mêmes puissent aller vers la réflexion. Je prends par exemple la découverte qu'on appelle le schéma corporel. Donc, le schéma corporel, elles-mêmes, en tant qu'adultes, elles n'ont qu'une conscience de leur... voilà, la notion du corps est difficile, en tant qu'adultes, de prendre conscience de son corps. Donc, on leur fait faire des exercices, on leur fait faire des automassages, pour qu'elles prennent conscience déjà de leur espace qu'elles prennent, déjà conscience de leur corps. Pour ensuite venir à plus à une théorie d'aller vers l'enfant. C'est voilà, et du coup effectivement on arrive à amener à la réflexion et certains pour la réflexion se disent bah oui, c'est vrai que quand les enfants sont pas nés, on a tellement peur que du coup on limite. Voilà, et du coup voilà, il y a des choses qui se réveillent mais il faut vraiment prendre ce temps pour pouvoir partir d'elle-même pour ensuite aller vers la réflexion et ensuite qu'est-ce qu'elle peut mettre en place elle pour laisser l'enfant découvrir son schéma corporel en toute liberté. On fait aussi, on a mis en place des séances de sophrologie et des chimpans de façon à les faire travailler aussi sur prendre conscience d'elle-même par la respiration et en pleine conscience et gérer leur stress, parce qu'après elles vont travailler effectivement dans ces structures où effectivement il y a énormément de stress parce qu'il y a énormément de fatigue physique et puis nerveuse. Donc, comment se poser à un moment donné, prendre un moment de pause pour laisser un peu le niveau et puis pouvoir se poser, de façon ensuite reprendre le travail avec plus d'énergie et en ayant fait presque une micro-sieste. Donc, on essaye de mettre ça en place aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on mène actuellement dans notre Greta. Ça porte ses fruits, mais voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ça commence par la formation de la personne qui va s'occuper, ou du formateur, qui va effectivement apporter une prise de conscience, effectivement, des conformations, de l'espiritualité laïque.
Sur les conformations.
Si c'est l'heure de finir, on va juste lire trois petites citations de René.
Il faudra
apprendre à désapprendre. Savoir publier et guider pour pouvoir recueillir et créer. Il nous faudra entrer dans le lâcher-prise à l'égard des formes multiples du pouvoir, de l'avoir et du savoir.
Il a écrit aussi, l'eau est incolore, mais permet de voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est sans forme et se moule dans toutes les formes. Elle a des milliards d'années, mais se régénère en permanence. Elle paraît bien dans sa moindre goutte portée des informations en provenance des temps lointains et de mondes inaccessibles à notre entendement.
Et donc, sur son expérience, aujourd'hui, on a coupé les quatre peupliers qui faisaient ma joie à l'horizon. Le sieur impromptu ne saura-t-il jamais qu'il a détruit le premier regard émerveillé que je portais sur le monde chaque jour en m'éveillant.